Un des domaines qui nous touche chaque jour et qui est essentiel à toute l'humanité, c'est le monde de l'agriculture et des fermiers. Un univers complexe, important et souvent méconnu par ceux qui ne sont pas du milieu. Oui, on sait c'est quoi une ferme, mais savons-nous vraiment comment tout fonctionne dans une ferme? Personnellement, j'en ai aucune idée. Plongeons ensemble dans cet univers et apprenons aux côtés de diverses personnes du domaine. Je vous présente GoFM dans le pré. Aujourd'hui, je suis avec Marc Brisson, le propriétaire des fermes Marcigny. Ça va bien?
Ben oui, toi.
Ben oui. Et pour commencer, tu veux-tu te présenter un petit peu?
Tu m'as déjà présenté, c'est Marc Brisson.
Ouais.
Je viens de Castleman. J'ai été élevé sur une terre agricole. Je suis venu au monde sur une terre agricole. Mm-hmm. Et puis, à l'âge de 20 ans, on a lâché la ferme et puis j'ai commencé à faire de la construction.
OK.
Puis, depuis ce temps-là, on est dans la construction. Et puis, une dizaine d'années, ben, on a décidé de racheter des terres. Mm-hmm. Tout bien 15 ans passés, le temps passe assez vite. Ça n'a pas de bon sens. Fait que oui, on a racheté des terres, puis là, on est rendu avec 350 arpents de terre. Fait que là, ben, depuis qu'on plante des graines dans le sol, mm-hmm. ben, à toutes les années, on plante la graine. Puis à toutes les années, on espère qu'elle va pousser. Puis à toutes les années, on espère qu'on va avoir la meilleure récolte qu'il y a pas sur la terre. Puis à toutes les années, on est déçus. Le printemps pleut trop, pleut pas assez, fait trop froid, fait trop chaud. À toutes les années, on est déçus. On est déçus d'une manière à parler, mais à toutes les années, on finit qu'on a des récoltes. Mm-hmm. Mais c'est jamais les meilleures récoltes. Ou c'est toujours les meilleures récoltes, ça dépend. C'est depuis ce temps-là, puis je me rappelle quand j'étais jeune aussi, mon père, c'était la même affaire. J'ai des amis dans le domaine de l'agriculture, puis eux autres aussi, tu sais, c'est toujours l'inquiétude. Quand tu mets ta graine dans le sol, est-ce qu'elle va pousser? Mm-hmm. Ben moi, à peu près 7-8 ans passés, j'étais comme un peu déçu de tout ça. Puis j'ai commencé, je me suis dit, il doit y avoir quelque chose de mieux sur la terre que de mettre une graine de dehors dans la terre et espérer qu'elle pousse. Puis ça fait que c'est là que la technologie sort. Parce qu'aujourd'hui, en 2024, ben, la technologie, on a partout. On a des fermes hydroponiques, on a des fermes avec de la pisciculture et hydroponique. J'ai étudié ça, et puis finalement, ben, j'ai laissé le projet aller. Ça m'a trop occupé dans la construction, parce qu'on fait quand même de la construction pendant tous les jours de notre vie. Mm-hmm. Mes deux garçons sont avec moi, ils travaillent plus dans la construction que... Ils sont avec moi aussi dans la ferme, mais pas dans la ferme Marcigny, ils n'ont pas le temps. Fait que c'est certain qu'on est toujours après s'inquiéter. Qu'est-ce qu'on va... Comment est-ce que ça va pousser? Et puis, pourquoi la raison je me suis décidé d'aller avec une ferme verticale, mm-hmm. c'est parce que de là, on contrôle la lumière, qui est le soleil, on mm-hmm. contrôle la température, on contrôle l'humidité. On contrôle l'eau qu'on lui donne et on contrôle les ingrédients qu'on lui donne. Fait qu'on donne pas trop d'ingrédients. Dans le champ, quand tu mets de l'engrais chimique, ben, t'en mets un gros tas d'engrais chimique pour mm-hmm. que ça pousse pour toute l'année. Mais nous, on donne un petit peu. Qu'est-ce que la plante a besoin à chaque jour? Fait que c'est ça qui est l'avantage d'une ferme verticale à l'intérieur. Tu dépends pas du soleil du tout. À comparer d'une serre, ben, une serre, tu dépends du soleil, mm-hmm. parce que tout dépendant du soleil qu'il y a dans ta journée, ben, c'est ça que tu as comme ta plante qui va pousser aussi. Fait que c'est garanti qu'avec une ferme verticale, qu'on a plus de contrôle. Puis on a tous les contrôles possibles. C'est comme j'ai toujours dit, faire un gâteau aux anges. Quand ma mère faisait un gâteau aux anges quand j'étais jeune, ben, elle disait, ben, faut pas que tu fasses ci, faut pas que tu coupes, faut pas que tu fies, faut pas que tu rouvres le fourneau. Ben, c'est la même affaire. Nous autres, après qu'on a fait une recette qu'on aime, mais la même recette va être répétée mois après mois. Fait que dans une ferme verticale, on va sortir à peu près dans un tambour qu'on appartient. C'est des tambours. Fait que tu parles, tu regardes ça, puis tu vas sortir à peu près 20 récoltes par année avec ce tambour-là. Fait que à l'année longue, on va sortir des récoltes à l'année longue. Fait que c'est ça qu'un peu... qui est l'histoire de la ferme verticale. D'autres choses... lance-moi tes questions.
Ben, t'as mentionné les fermes verticales puis tout ça, mais moi, dans ma tête, tu sais, j'ai genre les films post-apocalyptiques ou comme on peut voir... t'as-tu vu le film Snowpiercer?
Oui.
Ben, dans un des wagons,
il y a une ferme qui pousse vers, comme qui est verticale. Est-ce que c'est ça un peu, une ferme verticale?
Oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est excepté que dans le wagon, dans ce programme-là, ben c'est pas haut, tu peux pas aller bien haut. Mm-hmm. Tandis que nous, ben tout dépendant de la hauteur de ta bâtisse, le but, c'est plus ta bâtisse est haute, plus tu peux aller haut en machine, que tu peux mettre les machines une par-dessus l'autre. Mm-hmm. Là, nous, comme c'est là la ferme qu'on a, on a juste deux machines une par-dessus l'autre. On aurait peut-être pu en affûter trois, mais à cause des systèmes d'air conditionné puis de chauffage, ben il fallait descendre et rester à deux.
OK, donc tu as deux plans, un par-dessus l'autre.
C'est ça. Tu as deux roues, une par-dessus l'autre.
OK, puis ça, est-ce que c'est quelque chose qui est plus avantageux, selon toi, qu'une méthode d'aller faire pousser dans un champ?
Ben à comparer d'un champ, moi, tu vois-tu, j'ai 27 000 pieds carrés de bâtisse. Okay. Dans le 27 000 pieds carrés de bâtisse, c'est comme si on couvre 7 acres de terrain dehors, mm-hmm, avec de la production. Fait que tu prends, puis 27 000 pieds carrés, c'est à peu près une demi-acre, un petit peu plus qu'une demi-acre de terrain, de terre dehors. Fait que si tu regardes, moi, dans mon année, je vais produire, c'est comme si 7 acres de terrain est produit. Fait que dans une année, 27 000 pieds carrés produit pour l'équivalent de 7 acres.
Wow.
Fait que c'est sorti, c'est là que, puis là, moi, c'est juste à deux de haut. Si, mm-hmm, je serais capable de mettons que ma bâtisse serait deux fois plus haute, ben j'aurais quatre machines une par-dessus l'autre. Fait que, mm-hmm, là, je ferais 14 acres de terrain avec 27 000 pieds carrés. Mm-hmm. Fait que c'est là l'avantage des fermes verticales.
Puis aussi de contrôler la température, parce qu'on sait qu'en ce moment, tu sais, on a eu un hiver qui était chaud, on a eu un hiver qui était court, mais là, on a toute la pluie pas possible qui s'abat sur la région.
Oui, puis ça, c'est très dur sur les... c'est dur surtout cette année, ce printemps, c'était pas un beau printemps. Et puis, surtout dans le domaine maraîcher, on a beaucoup, beaucoup de places qu'ils ont pu... Ils n'ont plus de salade, ils n'ont plus de courges, ils n'ont plus de tomates, ils n'ont plus rien parce qu'il pleut trop, puis il n'y a rien qui veut pousser parce que dehors, comme j'ai tout dit, dame nature, c'est pas toi qui la contrôle, c'est, mm-hmm, elle qui contrôle toi.
Mais toi, vu que c'est à l'intérieur, tu peux vraiment tout contrôler, qu'est-ce qui se passe puis qu'est-ce que tu veux pousser.
C'est ça. Nous, à l'intérieur, tu contrôles tout, comme je dis, tu contrôles tout. Fait que tu as toujours, si je sais que ma plante, ça prend 18 jours dans le tambour à pousser, ben quand je la plante, 18 jours plus tard, je la récolte.
Juste 18 jours?
Ben ça dépend de ce qu'on fait. Mm-hmm. Si on fait du basilic, c'est 18 jours. Si on fait de la salade frisée, c'est 22 jours. Fait que c'est tout des... Après que tu as fait des... ta schedule, puis ton... que c'est le plan, la grosseur du plan que tu vas avoir aussi. Ça dépend aussi de la grosseur du plan. Si tu vas avoir un plan qui va prendre 38 jours à pousser dans la machine, ben ça va prendre 38 jours à pousser la machine aussi.
Mm-hmm. Puis toi, c'est quoi que vous faites pousser principalement au fermes Marcigny?
Comme c'est là, on fait du basilic et puis de la frisée.
OK. Donc, c'est quoi ce processus-là? Comment ça fonctionne avec les fermes verticales?
Ça rentre... écoute, on a du terreau parce que tout est poussé dans du terreau, qui est de la terre, mettons. Mm-hmm. Et puis, on met une graine dans la terre et puis dans des petits plats. Puis dans ce petit plat-là, il y a 240 graines dans ce plat-là. Lui, il est dans une salle, on appelle la salle de semis. Mm-hmm. Fait qu'il est dans la salle de semis pour, encore là, tout dépendant c'est quoi, si c'est du basilic ou si c'est de la laitue. Ça joue de 16 jours à 21 jours qu'on reste dans la salle de semis. Après ça, il est transplanté dans un autre genre de tray, un autre qui est plus gros, qui lui, il va dans les machines. Mm-hmm. Puis là, c'est là encore là. Si c'est du basilic, c'est 18 jours. Si c'est de la salade, c'est 22, 21. On essaie entre 21 puis 22 jours. Mm-hmm. Fait que c'est là qu'on contrôle. Fait qu'après ça, elle est récoltée, mm-hmm, est mise dans des boîtes, puis on l'envoie là, au marché. Là.
OK, puis est-ce que c'est tout automatisé, ça, ou tu as des gens qui sont là puis eux s'occupent de tout faire ça?
On a des gens qui s'occupent de tout faire ça. C'est certain que la transplantation, c'est un robot qui le fait, mais ça prend les personnes qui mettent les trays en place. Le robot, lui, fait juste transplanter. Il va prendre le plein, puis il va le transplanter dans l'autre tray. Mais le tray, il faut qu'il soit placé en place par des êtres humains.
Là. C'est quoi la transplantation? C'est comment ça fonctionne?
On appelle ça un robot, là, parce que c'est juste un bras comme un robot qui, lui, okay. il va prendre la plante, puis il va changer la plante de place, puis il va aller la placer dans un autre tree plus gros.
OK, parce que la plante a besoin de plus d'espace quand elle est rendue à ce stage-là.
C'est bien ça, c'est bien ça.
Puis, t'as mentionné que toi, quand t'étais plus jeune, t'as vécu sur une ferme, t'as grandi sur une ferme. C'est comment, genre, de passer à des terres agricoles, puis tout ça, puis maintenant à des fermes verticales? C'est quoi ce changement-là?
C'est un changement que c'est... Écoute, en tant que... Comme tu dis, je suis venu au monde sur une terre. C'est certain que c'est dur à enlever la terre de là parce qu'on va toujours en avoir de la terre. Mm-hmm. Mais le gros problème que moi, je vois, c'est que la population du monde entier monte à tous les jours. Mm-hmm. Et puis, les terres diminuent à tous les jours.
OK.
Et on a beau d'en défricher, d'en produire plus. Tu sais, aujourd'hui, au Canada, si on veut plus de terre, il faut les défricher. Mm-hmm. Mais quand on coupe un arbre, ben on enlève de quoi faire produire, de quoi la fameuse taxe du CO, la carbone taxe qu'ils nous parlent tout le temps. Là. Mm-hmm. Ben, à chaque fois qu'on coupe un arbre, ben ça remplit la carbone taxe. Fait qu'on essaie de, puis un jour ou l'autre, je sais même plus si on va pas en défricher des terres. Mm-hmm. Fait que là, t'as toute la population qui lâche pas d'augmenter. Fait que les fermes verticales, ben tu montes en hauteur. Comme je te disais tantôt, j'ai 27 000 pieds carrés qui représentent 7 acres. Mm-hmm. Fait qu'imagine-toi, si je fais une ferme de verticale de 10 acres, ben ça va produire... faudrait que je me sorte mes calculs. un 100 acres, là, tu sais. Mm-hmm. Fait que tout ça, c'est pour sauver des terres. Et puis en même temps, ben la population monte, puis c'est garanti qu'on va manquer de manger dans le futur, moi, que je pense.
Mm-hmm. Puis donc, toi, quand tu as fait tes recherches tantôt, tu parlais des fermes hydroponiques, puis tout ça. Puis là, toi, tu es venu à la conclusion que les fermes verticales, c'était la meilleure option?
Ben des fermes hydroponiques, c'est vertical aussi.
Ah, OK, OK.
Excepté, c'est une ferme hydroponique, c'est juste de l'eau. Il n'y a pas aucun terreau. C'est la plante, elle baigne dans l'eau tout le temps. C'est de l'eau... Puis les ingrédients chimiques sont dans l'eau aussi. Mm-hmm. C'est juste que le problème avec ça, que ben, toutes les fois que j'ai étudié, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes. À un moment donné, c'est toujours la même eau qui recycle. Puis là, aussitôt que tu as un petit problème, mais tu peux perdre toute ta culture. Il y a plus de contamination. Fait que c'est beaucoup de... Le monde qui font... Il y en a beaucoup de places qui font ça, puis je lève mon chapeau parce que les autres aussi, c'est des belles affaires. C'est juste que pour eux autres, il y a plus de contrôle à contrôler parce qu'ils peuvent avoir plus de contamination dans l'eau. Puis aussitôt qu'il y a une contamination dans l'eau, bien, le récolte ne fonctionne plus. Là. Fait que là, c'est beaucoup d'affaires à checker pour eux autres. Que moi... Puis écoute, quand tu es élevé sur une terre, tu es élevé qu'une graine elle pousse dans la terre, puis on a encore cette mentalité-là. Fait que les machines que j'ai aujourd'hui, ben ça prend du terreau. Et puis la machine est poussée dans la terre. Puis on dirait que ça lui donne plus quand tu goûtes à la laitue, il y a un croquant dedans puis un goût qu'on n'a pas ailleurs. Je veux pas parler contre les autres, là. Fait que peut-être que tu devrais pas parler de ça, là.
Mais les fermes hydroponiques, tu mentionnes, ça pousse dans l'eau. Donc, les graines, ils n'ont pas besoin de terre. Puis, tu peux faire pousser ce que tu veux.
Tu peux faire pousser ce que tu veux. C'est mettre une graine dans un petit fond qu'on appelle un petit feutre. Mm-hmm. Et puis, la graine, ben, elle part à pousser là-dedans. Puis après ça, les racines descendent dans l'eau. Puis, les racines sont toujours dans l'eau.
OK, OK. Donc, moi, je pensais que c'était genre une ferme pour les algues. Là. Tu sais, au début, tu mentionnais ça, c'est tout dans l'eau puis tout ça. Donc, moi, j'étais comme, des algues, ça pousse dans l'eau puis tout ça. Fait que, OK. Mais non, c'est intéressant. Puis, toi, ben, t'es venu à la conclusion que c'est avec la terre, c'est mieux puis ça rend un meilleur produit.
C'est ça que moi, je pense.
Oui, oui. Puis, quand tu faisais tes recherches puis tout ça, j'avais cette question-là. Oui, il y a les fermes verticales et tout ça, mais pourquoi pas une serre?
Comme je te disais tantôt, une serre, encore là, tu ne contrôles pas tout.
OK.
Oui, tu peux mettre des lumières dans une serre. Oui. Mm-hmm. Fait que là, tu as le soleil qui va marcher toute la journée. Et puis là, tu as passé le soleil, tu allumes des lumières. Puis la même affaire avec la chaleur. Je fais trop chaud. C'est, dans les serres, il n'y a pas de système d'air conditionné. C'est parce que ça se fait quasiment. En tout cas, j'ai pas vu des serres encore avec des systèmes d'air conditionné. Parce que ça coûte trop cher. Mettons que tu. Dis on contrôle la chaleur quand tu dis ta contrôle est toujours égale. Okay. C'est comme dans la maison chez vous. Là. Mm-hmm. Tu mets ça à 21 dans la maison chez vous, il fait 21. Mais nous, on met ça, mettons, à 26, mais il fait 26. Puis le soir, la nuit, on appelle la nuit pour la plante, bien, on descend la température à 21. Fait que c'est toujours, toujours la même affaire. Fait que pour faire la même recette, pour faire le même goût, encore pour venir mon gâteau aux anges, tu peux pas avoir mieux qu'une serre fermée. Bien, c'est pas une serre, mais une bâtisse fermée, mm-hmm. qu'il n'y a aucune lumière qui rentre dans la bâtisse à part que toi, toute la lumière que tu produis pour. La serre, je suis propriétaire d'une serre aussi. Partner. Mm-hmm. Et puis, on contrôle, on vient à bout de contrôler, me dire, à 60% de tout ce qu'on peut faire.
OK.
Fait que c'est pas accurate comme que nous, dans la ferme verticale, qu'on peut se contrôler.
C'est ça, parce qu'il y a tout le temps, quelque part, un petit...
Dans toute la journée, il va passer, mettons, il fait beau soleil. Mm-hmm. Tous les rideaux rouvrent pour rester l'air circuler tout ça. Oups, d'un coup, c'est qu'il passe deux, trois nuages. Oups, la température vient changer complètement en place. Mm-hmm. Puis, à cause que c'est dans une serre, ben on dirait qu'il fait tout le temps bien chaud là-dedans. Mm-hmm. Parce que le soleil passe à travers du plastique, puis il fait chaud. Mm-hmm. Fait que la plante, elle aime ça, de la chaleur, mais trop de chaleur, c'est pas bon non plus.
Donc, il faut un genre de système de ventilation aussi qui accompagne dans la serre, parce que si on pense à l'effet de serre... qui parle avec l'atmosphère, puis là, ben les rayons du soleil qui arrivent puis qui ne ressortent pas, ben ce nom-là, il est venu à cause des serres, parce que les rayons passent à travers, mais eux autres ne veulent pas sortir.
C'est ça. Et les serres, ça va toujours exister, parce que c'est très bon aussi. Mm-hmm. Mais pour produire à l'année longue, la ferme verticale, comme on a, tu vas produire à l'année longue. Mm-hmm. L'hiver comme été, et puis avoir une tempête de 6 pieds de neige comme dehors, tu vas toujours produire pareil.
C'est pas grave parce que, comme tu mentionnes, tout est contrôlé, tout est fait par toi. Puis ça, c'est un des gros changements qu'il y a avec la technologie qui est arrivée aussi. Parce qu'on parlait des terres en ce moment aussi, un peu la température qui change, les changements climatiques. Avant, il y avait des choses qui pouvaient pousser au Canada, maintenant moins. Puis maintenant, il y a des choses qui poussaient pas, mais maintenant, ça pousse. Mais toi, ça te dérange pas, t'es comme... Oh. Moi, je peux faire pousser ça. Là.
C'est ça. À l'intérieur, tu fais pousser. Ça dépend. Tu peux pas faire pousser une patate, mettons, ou une carotte, parce que la terre que j'ai, moi, je suis juste capable de faire pousser, comme c'est là, des green leaves qu'on appelle, là,
des feuilles vertes.
Des feuilles du. Je cherche le mot français, là.
C'est correct, tu peux le dire en anglais.
Fait qu'on appelle ça du green leaf, là. Mm-hmm. Fait que c'est rien que ça qu'on peut faire. C'est qu'est-ce qui sort de terre qu'on peut pousser.
OK. Mais qu'est-ce qui reste dans la terre, ça fonctionne pas.
Comme cela, ça peut pas fonctionner avec nous autres.
Mais t'as-tu entendu qu'il y avait peut-être une avancée qui pourrait vous laisser faire ça?
C'est quelque chose que je te dis pas qu'on regarde pas pour, mais avec la technologie que j'ai comme cela, avec les roues que j'ai, c'est pas quelque chose qui va être faisable avant bien longtemps.
OK. Puis ces roues-là, c'est comment ça fonctionne?
Les roues, c'est une roue, il y a deux systèmes au Canada. Une roue de 5 pieds et une roue de 8 pieds de diamètre, qu'on mm-hmm. appelle. Et puis, la roue, nous, on met le tray dans la roue. Le tray, c'est un petit tray de 8 pouces à peu près de large. Puis là-dedans, t'as toutes tes transplants qui ont été transplantés. La roue roule en entour du soleil, parce que mm-hmm. la lumière est en plein milieu. Fait que la roue roule en entour du soleil. Et puis, l'eau est donnée au compte-gouttes quand la plante est la tête à l'envers. Mm-hmm. Fait que là, la plante est à l'envers, puis en arrière des trays, il y a des petits trous. Fait que là, l'eau est donnée par goutte, compte-gouttes, par la racine directe. Mm-hmm. Il n'y a jamais d'eau qui touche à notre plante. On n'a aucun fongicide, aucun pesticide. Fait que c'est la plante est propre. Là. Tu peux ramasser la plante puis la manger direct. Là, il n'y a rien mm-hmm. dessus, même pas besoin de la laver. La seule fois qu'il peut arriver, elle peut. Des fois, quand elle est à l'envers, tu as un petit morceau de terre qui va peut-être tomber, c'était là. Mais de la terre, ben écoute, de la terre, c'est pas méchant marais, là, mais c'est certain, si t'as lave, c'est mieux.
Ben, c'est certain. Il y a aussi des cultures qu'eux, ils font des soupes avec un petit peu de terre. J'ai vu un documentaire sur ça. Fait que moi, c'est. Tu sais, tu veux pas le manger, mais c'est mangeable, mettons.
C'est ça.
Puis. Comment que ça fonctionne, la lumière-là, ce soleil-là? Parce que je suis pas mal certain que si je mets une ampoule électrique bien normale, ça va rien faire à la plante.
C'est des lumières spéciales pour la pousser. Il mm-hmm. Y a toutes sortes de lumières sur le marché. Il y a des compagnies qui font toutes sortes de lumières. Fait que te dire vraiment comment est-ce qu'elle fonctionne, cette lumière-là, elle représente le soleil. Fait que c'est la partie que ça serait mon petit agronome qui serait ici qui lui dirait plus de réponses là-dessus. Si tu l'affaire, tu peux faire, par exemple, si je peux te l'envoyer après, si tu veux, puis poser d'autres questions à lui aussi, si tu veux.
Ah, oh, ben ça va être correct. Mais donc, c'est vraiment... Donc, cette lumière-là, il envoie des rayons UV, j'imagine, ou quelque chose comme ça?
On a beaucoup de sortes de lumières. Puis tu as des lumières qui vont lancer des genres de... qui représente, écoute, le soleil, il y a bien des lumières là-dedans. Là. C'est pas juste du UV, là. T'as toutes sortes d'affaires. Mm-hmm. T'as dit exactement comment ça marche. Je pourrais pas te le dire. Je t'ai compté de menterie.
Okay. Non, c'est bien correct. Puis...
Moi, je me fie au gars qui m'a vendu la lumière et dit c'est ça que ça te prend. OK, c'est parfait.
C'est ça que ça te prend, j'ai compris. C'est ça qui va être installé ici.
C'est ça.
Puis. Ta-ta-ta-ta. J'ai eu un blanc de mémoire. Ça arrive, c'est correct. Je peux tout arranger correct, ça par correct. Ça. Puis là, on est allé du côté de la ferme verticale. Puis on va continuer là-dessus parce que si, mettons, il y a quelque chose qui arrive, tu sais, mettons, il y a une contamination dans une des graines ou quelque chose comme ça, comment ça fonctionne dans la ferme verticale?
La ferme verticale, c'est séparé ça en... Comme c'est là, la note est séparée en trois sections. Mm-hmm. Fait que si on a une contamination, ben un, c'est assez de la gérer. Mm-hmm. J'ai dit qu'on ne mettait jamais de pesticides, on ne mettait jamais pas des herbicides, mais des fongicides. Mm-hmm. On n'a jamais mis à date et on ne veut pas d'en mettre. Mm-hmm. Mais si quelque chose arrive, qu'il y a une contamination, ben là, on n'aura pas le choix d'en mettre pour cette récolte-là. Fait que on parle de la récolte qui va t'offrir un 30 jours. Fait que, si, mettons, qu'il y a vraiment de la contamination qui arrive, bien, il faut essayer de la sauver. Il ne faut pas juste la jeter. Mm-hmm. La sauver, bien, c'est mettre un pesticide ou un 99% du temps, ça va être du fongicide. Ben, le pesticide, c'est pas des insectes. Mais les insectes, bien, écoute, la bâtisse, c'est impossible. Des insectes, il n'y en a pas. Fait que c'est certain que, oui, s'il y a une contamination, il faut essayer de la régler. Puis si ça ne se règle pas, bien, il faut tout jeter la récolte. Mm-hmm. Tu te laver et tu te recommences à zéro.
Puis, j'imagine que les terres que vous utilisez, c'est-tu changé à chaque nouvelle récolte ou est-ce que c'est quelque chose que vous recyclez aussi?
À chaque récolte, c'est d'une terre nouvelle qu'on met pour éviter la contamination.
OK. Ah, oh, ben justement, ça l'aide avec la contamination. Donc, ça, c'est une autre différence qu'il y a avec, mettons, quelqu'un qui fait pousser ça dans un champ et quelqu'un qui fait pousser ça comme vous autres dans une ferme verticale.
C'est ça.
Puis les fermes verticales, selon toi, c'est l'avenir de...
Selon moi, c'est un gros avenir. Est-ce que c'est l'avenir à 100% qu'il va y avoir juste ça dans le monde? Non, c'est impossible. Mm-hmm. Mais c'est un avenir... moi, si je vois beaucoup, beaucoup ça dans l'avenir, c'est que je suis rentré partner avec... Les systèmes de roues, de tambour, quand je te parle, je suis rentré partenaire avec eux autres tant que je vois l'avenir là-dedans.
OK, parce que comme tu mentionnais tantôt, c'est les terres agricoles. Premièrement, ça coûte cher. Il y a moins en moins de relèves parce que les coûts sont extrêmement élevés. Puis il y a moins de personnes qui rentrent dans le domaine parce que, encore une fois, il y a ces coûts-là. Est-ce que vous autres, vous avez aussi des coûts qui sont extrêmement chers pour commencer?
Oui, parce que tout l'équipement, surtout tu parles d'équipement maraîcher, c'est cher, vraiment cher. Fait que Mais c'est qu'au bout de la ligne, faut que tu regardes ça comme un investissement. Une terre, aujourd'hui, tu achètes une terre l'entour d'ici, c'est entre 20 et 22 000 $ de l'acre.
Wow, OK.
les seules personnes qui peuvent acheter des terres aujourd'hui, c'est le fermier qui n'a plus de dette, qui n'a pas rien, puis qu'il a trop, on va dire qu'il a trop de cash, fait qu'il achète des terres. Mm-hmm. Le jeune entrepreneur qui veut s'acheter une terre aujourd'hui, c'est impossible, il arrive. Impossible, il arrivera jamais. Fait comme tu dis, l'avenir, de moins en moins de personnes qui travaillent là-dessus, ça va être au des générations après générations. Mm-hmm. Puis c'est les grosses compagnies qui vont acheter des terres aussi, que je vois. Les gros agriculteurs qui vont acheter des terres. Mais l'agriculteur qui est rendu à 10 000 acres, puis qui a un enfant ou deux, puis dans 20 ans de titre, l'enfant décide de ne pas faire ça, ses terres, il va falloir qu'il les vende à quelqu'un d'autre. Mm-hmm. Puis, c'est pas achetable aujourd'hui une terre. Parce que c'est pas rentable. Tandis que l'équipement qu'on achète, nous, à cause du produit à l'année longue, ben c'est fini que c'est rentable. Mm-hmm. Oui, ça va prendre 10 ans à payer tous les équipements. Les bâtisses, ça va prendre 20 ans à payer comme tout le monde. Mais c'est que au bout de 20 ans, tu vas devoir payer. Une terre agricole, tu peux emprunter à 22 000 piastres de l'acre, tu ne la paieras jamais dans ta vie. C'est tes enfants qui vont finir de le payer, puis tes petits-enfants qui vont finir de le payer.
Mm-hmm. Puis tandis que, aussi, quand tes machines sont payées, bien là, à ce point-là, tu peux regarder pour améliorer la ferme aussi. Tu peux regarder pour faire une expansion, puis tout ça.
C'est ça. Le but, comme à Castleman, la ferme Marsonnier, le but, c'est de remplir cette ferme-là avec 250 tambours. Comme cela, on a 52 tambours. Mm-hmm. C'est de la remplir avec 250 tambours. Et puis après ça, phase, on va dire 4, c'est de bâtir. On a de la place pour bâtir une bâtisse de 40 000 pieds carrés à côté. C'est de bâtir une autre bâtisse aussi plus grosse que celle-là. Puis aller en hauteur, puis d'en mettre 4 de haut. Puis on finirait avec un autre 1000 tambours à peu près là-dedans.
Wow! OK, puis avec ça, ben vous allez être capable de prendre l'expansion, faire pousser d'autres choses, puis tout ça.
C'est ça.
Parce que donc en ce moment, c'est vraiment, vous êtes peut-être pas au début de ce beau projet-là, mais peut-être que vous êtes encore comme dans la phase 2, j'imagine?
Bon, on est encore dans la phase 1. OK. On arrive dans la phase 1 terminale. On a commencé à produire ça depuis le mois de mars à peu près, mais on a toujours fait avec des expériences encore. On avait fait des expériences dans des tambours, mais juste à 2-3 tambours. Mais quand c'est le temps de rouler une ferme complète, il y a beaucoup de challenges à rencontrer. Mm-hmm. Et puis, la main-d'œuvre encore, c'est très, très dur à acquérir. On regarde pour aller chercher de la main-d'œuvre à l'étranger. Mm-hmm. Parce que la main-d'œuvre au Canada, c'est très dur à aller chercher. C'est des salaires qui, c'est pas des salaires que toute personne aime, c'est des salaires minimum qu'on appelle. Mm-hmm. Il n'y a pas personne qui veut travailler le salaire minimum au Canada.
Mm-hmm. OK, puis quand tu faisais tes recherches, toi, t'avais, comme tu as mentionné, tu as regardé plusieurs différentes choses comme les hydroponiques, tout ça. Mais pourquoi les fermes verticales? Comme il y avait peut-être d'autres options parce que vu que toi, tu es allé d'une ferme quand tu étais plus jeune, d'une ferme avec des terres normales puis tout ça, mais... Là, tu es allé vraiment pousser tes recherches sur les fermes verticales. Y avait-tu d'autres options que tu regardais au début?
Bien, quand on parle de fermes verticales, il y a beaucoup d'options. Moi, j'ai choisi les fermes verticales, mais avec les tambours. Mm-hmm. La raison que j'ai parti avec les tambours, c'est que ça prend... C'est la lumière qui contrôle... Le coût le plus cher, c'est la lumière.
OK.
Et puis, en étant un tambour, ben, tu as une lumière au centre qui éclaire... si, mettons, la roue elle a 5 pieds de diamètre, ben, si tu la déroules, cette roue-là, ben, ça fait, c'est comme 15 pieds, c'est fois pi, là, puis qui est 3,14, fait que si tu fais 5 pieds fois 3,14, ça fait 15, mettons, on va arrondir ça à 16 pieds. Mm-hmm. Ben, pour éclairer 16 pieds de table, ça mm-hmm. prend beaucoup de lumière. Mm-hmm. Tandis qu'avec une lumière, j'éclaire, à cause que le tambour tourne autour de la lumière, j'ai une lumière qui éclaire tout ce 15 pieds-là, à la place d'avoir, je vais te dire, 6 lumières. Mm-hmm. Fait que c'est pour ça que j'ai opté pour prendre la roue, parce que je me suis dit, en fait d'énergie, on va sauver un peu sur l'énergie. Parce que parce qu'on faut dire qu'on prend de l'énergie, on prend de l'électricité, on fait de la lumière. Mm-hmm. Fait qu'en étant, puis toutes les autres verticales, quand on parle de verticales, ça peut être juste des tablettes une par-dessus l'autre. Mm-hmm. Et puis, tu as des lumières à chaque tablette qui éclaire cette tablette-là. Mettons, tu prends une lumière, là, tu prends une tablette là, de 8 pieds de large par 15 pieds de long, comme que ma roue, une fois qu'elle est déroulée, mm-hmm. bon, ben, pas, ça va prendre plus que 6 lumières. Je dis 6, mais ça va prendre probablement une douzaine de lumières pour éclairer ça, mm-hmm. pour avoir la même lumière. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé d'aller. Ben, j'ai tombé en amour avec le système de tambour quand j'ai vu ça. J'ai dit, c'est très, très innovatif, puis mm-hmm. j'ai décidé d'aller avec ça.
Puis aussi, ça doit être un des défis, tout ça, le circuit électrique qui est dans cette ferme-là, pour justement donner toute la lumière possible, puis que tout fonctionne, parce que s'il y en a un qui casse, ben là, tu vas avoir un plan qui n'aura pas de nutriments par ces lumières-là.
Chaque roue a sa propre lumière. Mm-hmm. Fait que si une lumière ne fonctionne pas, ben, mettons qu'une lumière brûle, ben, on a juste cette roue-là qui ne fonctionne pas pour, le temps qu'on la voit. Les lumières sont allumées de, comme c'est là, de 9h le soir à 1h l'après-midi. C'est le temps qui coûte le moins cher. Fait que c'est pour ça qu'on fait marcher les lumières de 9h le soir à 1h l'après-midi.
OK, puis c'est quoi les défis que tu as rencontrés pour une ferme verticale? Parce que j'imagine que ça doit être quand même assez différent que ceux qui ont des terres normales.
Bien, écoute, comme je te disais tantôt, on est tout nouveau. On fait juste de commencer. Fait que c'est certain qu'on est en expérience encore. Mm-hmm. On est la première ferme verticale avec des tambours au Canada. Mm-hmm. On va dire à travers de l'Amérique du Nord. Les mêmes tambours que j'ai achetés, c'est on produit à Montréal. Et puis, en France, au sud de la France, ils ont une ferme de 50 machines qui fonctionne, ça fait 4 ans aujourd'hui. Mm-hmm. Et puis, nous, ici au Canada, ben, on est la première ferme verticale. Fait qu'on a beaucoup d'études à faire. Pas des études, mais des expériences à mettre en place, parce qu'il n'y a pas personne qui peut venir chez nous et me dire « Marc, fais ça comme ça, fais ça comme ça, mm-hmm. fais ça comme ça, ça va bien aller. » C'est nous autres qu'il faut
essayer.
Ouais. Oui, comme je te disais tantôt, on a travaillé avec 3 machines, mais 3 machines puis 52 machines, c'est pas la même affaire. Tu as l'humidité qui change beaucoup, beaucoup dans les bâtisses. Quand tu éteins les lumières, l'humidité monte en place. Fait que là, faut que tu contrôles l'humidité. Fait que tu as beaucoup, beaucoup... 52 machines qui fait de l'humidité en même temps, comparé de 3 machines, c'est pas la même histoire, pas en doute. Mm-hmm. Puis, parce qu'on a 250 machines, ça sera même pas encore la même histoire. Fait que c'est tout des buts qu'il faut passer à travers, mm-hmm. mais tout en faisant des expériences.
Mm-hmm. Donc, tout régulé en même temps d'essayer des nouvelles choses, comme là, tu faisais le chou frisé, tu faisais aussi du basilic. Est-ce que bientôt, vous allez essayer quelque chose d'autre?
On veut aller faire de la romaine, mm-hmm. toutes les sortes de salades, on peut les faire. De la romaine, de la coriandre, du bok choy, du basilic... des fines, comment on appelle ça? Là?
Les fines herbes?
Oui, bien, c'est des fines herbes. C'est des produits de fines herbes qu'on appelle, ils appellent ça green leaf, c'est tout des fines herbes en français. Là. Mm-hmm. Le micro-pousse, là, je cherchais le micro-pousse. Le micro-pousse, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi, mais ça va être dans l'avenir, ça. Parce que ça prend des différents trees pour tenir la terre, à cause que la roue tourne. Ça nous donne un autre défi aussi. Quand mm-hmm. la roue tourne, quand elle est à l'envers, la terre veut sortir aussi. Mm-hmm. Fait que c'est un défi qu'on a comme c'est là. Fait que tout ce qu'on fait pousser, il va bien. Mais quand on veut faire pousser comme de la micro-pousse, sauf que ça c'est. Vraiment, il ne faut pas qu'il y ait de couvert dessus. Fait que vraiment, comme c'est là, à date, on n'a pas trouvé rien qu'on puisse avoir la plante à l'envers puis que mon terreau va rester dans le tree sans tomber mm-hmm. En bas. Fait que mais dans l'avenir, ça va venir. Comme je disais tantôt, c'est des recherches qu'on fait encore. On a 52 machines, mais on a 10 machines qu'on s'amuse à faire des tests encore, toutes sortes d'affaires dedans.
Puis toi, quand tu t'aventurais pour faire une ferme verticale avec vos tambours et tout ça, ça t'a pas peut-être... ça t'a-tu inspiré ou ça t'a fait peur que vous êtes la première ferme, comme tu mentionnais, nord-américaine, qui fait ça, puis t'as pas vraiment d'aide, c'est vraiment toi tout seul là, qui est comme « OK, on va essayer ça comme ça, on va voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, ben on va se planter puis on va essayer de quoi d'autre. »
Écoute, t'as dit exactement ce que c'est que j'ai fait. Oui, j'ai engagé des ingénieurs pour dessiner des systèmes de ventilation, des ingénieurs pour le système d'électricité. Et puis là, après, quand tu commences à faire quelque chose, tu regardes ça, tu dis à l'ingénieur, écoute, je pense pas que ça va marcher. Fait que moi, je vais faire ma tête, puis on va faire ça de même. Un ingénieur, c'est très intelligent, mais ça dessine tout à, on va dire, à 110 % quand c'est que tu as besoin. Mm-hmm. Puis ça a des coûts, ça. C'est 20 %-là de plus, mettons, de 90 à 110, ça a des coûts très, très chers, très dispendieux. Fait que oui, c'est certain qu'on fait des tests. Puis écoute, là, ça coûte 50 000 de moins, fait qu'on va prendre ça. Mais on prend jamais un équipement que tu peux pas upgrader. Mm-hmm. Fait que oui, l'équipement coûte 50 000 de moins aujourd'hui, mais si j'ai vraiment besoin de mon 110 %, comme l'ingénieur a figuré, ben on a juste à peine de le mettre, là, 50 000 dedans, puis on va l'avoir. Fait que c'est... Oui, c'est des challenges, puis est-ce que j'étais stressé? Oui, c'est un stress qu'on a parce que c'est un nouveau domaine complètement, parce que partir de la construction, à faire de la ferme plantée dehors, qui est des produits non maraîchers, mm-hmm. puis tomber dans le produit maraîcher, c'est la partie la plus stressante.
Mm-hmm. Parce que là, c'est vraiment, comme tu mentionnes, tu testes, tu essayes, puis il n'y a personne pour t'épauler là-dedans. T'sais, les gens sont comme, oh, ben, tu peux faire ça comme ça, mais parce que les gens travaillent pas, puis travaillent pas dans ce certain type de ferme-là. Fait qu'ils savent pas encore la réalité de ça, vu que c'est tout nouveau, ça vient juste de commencer.
Puis il y a une affaire que j'ai remarqué aussi dans les domaines maraîchers. Il n'y a pas personne qui... Un compétiteur ne veut pas t'aider.
Ah, oh, OK. Donc, il n'y a pas d'aide entre les fermiers?
Non, les compétiteurs ne veulent pas te parler parce qu'ils ont peur que tu voles leur client, ils ont peur que tu voles leur recette, ils ont peur que tu voles... Puis moi, en étant dans le domaine de construction, j'ai toujours travaillé avec mes compétiteurs. Parce qu'un compétiteur dans la vie, c'est là que tu prends de l'expérience, c'est là que tu lui t'aides, puis c'est là que toi, tu lui aides. Mm-hmm. Puis j'ai remarqué que dans le domaine de maraîcher comme ça, il n'y a pas personne qui veut travailler, qui veut t'aider. Quand tu, mettons, moi, j'ai pris le téléphone, j'en ai appelé différentes places, puis t'aider, c'est non. Il veut pas prendre tout. Ben oui, tu vas être mon compétiteur, fait pourquoi je t'aiderais? Ben non, mais on va travailler ensemble. Si tu me dis, toi, tu produis un certain produit, puis moi, je te dis, mon produit, l'autre produit, on va travailler ensemble. Puis c'est non. Personne ne veut travailler ensemble dans ces domaines-là.
C'est quoi le domaine maraîché?
Le domaine maraîché, c'est du manger qu'on fait pour l'être humain.
Ah, oh, OK. Donc, c'est le mot juste pour désigner ça.
C'est ça.
OK. Puis, il n'y a personne qui... Ben, je sais qu'il y a des cultivateurs puis tout ça qui s'entraident entre eux, mais c'est plutôt rare, tu mentionnes?
Ben, des cultivateurs en champ, ça va s'aider ensemble. Oui, c'est des compétitions qu'on appelle de vieux farmers, qu'on appelle. Mm-hmm. Que c'est « Oh, ma plante est plus belle que la tienne », puis c'est ça, puis c'est tout, t'es drôle, ça, tu sais, entre voisins comme fermier. Mais ça c'est toujours, ça, son père a travaillé ensemble. Moi, je parle dans le domaine maraîcher. Quand t'appelles un autre compétiteur, que lui, mettons que j'appelle un autre gars qui produit de la salade comme moi, ben de la laitue. Je veux dire, j'appelle ça de la salade, mais une salade, c'est pas de la salade, c'est de la laitue qu'on fait. Mm-hmm. Fait que c'est le gars que t'appelles, mettons que j'appelle un autre gars qui fait de la laitue, ben il m'aidera pas du tout.
OK.
Du tout. Il veut même pas, ils disent à rien. Il veut pas m'aider. C'est ça que c'est la partie que je trouve que c'est dur de travailler ensemble. Parce que c'est tout comme je te dis. Oui, je suis la première ferme, mais il y a d'autres. Je suis la première ferme avec ces tambours-là. Mais il y a d'autres petites fermes verticales qui existent, qui est hydroponique surtout. Mm-hmm. Il y a beaucoup de fermes hydroponiques qui existent au Canada. Mm-hmm. Puis nous, on est la seule ferme verticale qu'on appelle qui est avec ces tambours-là. Mm-hmm. Mais si j'appelle une autre compagnie qui font de l'hydroponie ou j'appelle qui font des plateaux des plateaux plates un par-dessus l'autre qui font pousser du microgreen, qui font pousser des laitues. Toujours vertical. Non, il n'y a pas personne qui veut t'aider. Personne qui veut travailler avec toi.
OK. Puis tu penses-tu que ça prend plus d'études, comme tu as besoin de plus d'études pour te lancer dans des fermes verticales comme les tiennes, ou tu as besoin encore plus d'études? Pas plus d'études, mais tu as besoin des études justement pour aller sur les fermes, parce qu'on sait que les fermiers maintenant qui sont sur les terres normales, eux, ils ont quand même besoin d'apprendre comment toute la nouvelle technologie fonctionne, les nouvelles maçonneuses batteuses, tout ça. Puis il y en a quelques-uns qui m'ont dit que durant l'hiver, c'est pas une période morte. On continue à étudier, on continue à voir qu'est-ce qui s'en vient, puis essayer d'améliorer la ferme. Est-ce que toi, tu penses que c'est quelque chose aussi qui est similaire à ce que toi, tu dois faire?
Ben nous aussi, on a toujours des études à faire. C'est certain qu'il faut toujours améliorer. Comme que je disais, tu sais, la graine que, quand on était jeune, là, l'épisode, là, les géants, tu sais, on met les graines dans la terre, puis ça monte dans le ciel, puis là,
oh oui.
En dedans d'une seconde, tu sais, fait que oui, c'est certain qu'aujourd'hui, les fermes, on produit, mettons qu'on regarde dans le maïs, en champ. Mais quand j'étais jeune, si mon père produisait là, une tonne et demie à l'acre, c'était beau. Aujourd'hui, on produit jusqu'à 6 puis 6,5 tonnes à l'acre parce qu'ils ont fait des changements avec la graine, puis c'est plus le même plan. Puis, fait qu'ils ont beaucoup changé. Fait que nous aussi, on a des études à faire. Puis nous aussi, si on peut donner telle chaleur à ta plante pour qu'elle pousse à place, comme je disais tantôt, place qu'elle prenne 28 jours ou 22 jours à pousser, si on peut faire la même plante dans 16 jours, bien, on va finir qu'on va produire plus de manger, mettons, à manger, de plus de produits. Fait que tu finis, tu as plus de manger sur la table pour l'être humain, tu sais. Fait que oui, c'est des études, il faut en faire tous les jours, puis il faut jamais lâcher d'évoluer parce que c'est là que l'évolution, elle est.
OK. Puis, est-ce que toi, tu penses que votre façon de faire, c'est plus écologique? Parce que c'est une grosse question qui touche en ce moment pas mal tout le monde, là, l'écologie puis tout ça.
La raison pourquoi on est avec ça, un, comme je te disais tantôt, c'est l'eau. On sauve de l'eau. On prend presque pas d'eau. Mm-hmm. Moi, avec 1000 litres d'eau, je fais marcher mes 50 tambours. Mm-hmm. Fait qu'on prend pas d'eau du tout, c'est parce qu'on donne goutte à goutte. Mm-hmm. Les ingrédients, on gaspille pas d'ingrédients parce qu'on jette aucune eau. Toute l'eau est utilisée. Fait que quand tu mets un ingrédient dans la terre, dans l'eau, pour donner au goutte à goutte, il n'y a aucun ingrédient qui est jeté. Mm-hmm. Aucun ingrédient qui est parti dans la rivière. Tu sais, quand on met de la grêche chimique dans le champ, ben écoute, s'il y a une grosse pluie qui vient, ben t'as un petit pourcentage qui s'en va dans le fossé, puis dans le fossé, ben, ça va dans la rivière. Fait que c'est... Pour répondre à ta question, moi, j'y crois à 100% parce qu'on sauve sur tout. Les terreaux, on prend presque pas de terreaux. Puis comme je te disais tantôt, avec 27 000 pieds carrés, on produit pour 7 acres de terrain. 7 acres de terrain qui poussent, ça prend beaucoup d'eau.
Mm-hmm. Puis, tantôt, on mentionnait que, selon toi, c'est l'avenir des fermes parce qu'on peut quasiment les construire un petit peu partout, même sur des terrains non cultivables. C'est si ça. On pense dans le nord, peut-être qu'il fait trop froid pour pousser la grande majorité ou ça pousse pas, tu peux pas en pousser autant. Fait que tu peux en bâtir une puis la construire dedans.
Tu peux bâtir ça en plein nord parce qu'il n'y a aucune terre, là. Mm-hmm. Puis tu vas construire ça, puis tu vas pouvoir... fournir le village au complet, ou la ville, pas la ville, là, mais un village. Là. Mm-hmm. Mettons, tu bâtis une bâtisse comme moi, là, ben je fais trop de... Bon, probablement, si tout le monde de Castleman achèterait ma salade, mes laitues, probablement, je n'en aurais assez pour fournir le village de Castleman. Fait que oui, tu peux bâtir, si tu bâtis ça dans un village en plein nord, s'il n'y a pas de... c'est rien de la neige, tu vas pouvoir le faire.
OK. Puis quand tu vas bâtir ça, sauf par exemple, il y a encore ces coûts-là qui arrivent avec, malheureusement, la technologie puis tout ça. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas échapper, même si c'est une ferme verticale.
Non, les coûts sont au rouleau.
Puis quelqu'un qui voudrait se lancer puis peut-être en bâtir une, as-tu des recommandations à lui faire, des petits trucs?
Oh, c'est une bédite. Bonne chance. Écoute, ça prend beaucoup d'argent. C'est pas juste comment je peux dire.
C'est pas un projet, mettons, d'après-midi.
Non, c'est pas un projet d'après-midi. C'est écoute, j'ai travaillé là-dessus 3 ans de temps avant qu'on commence la construction. Et puis ça a pris 1 an à faire la construction. Puis ça fait 6 mois qu'on est encore en études. Fait que le but, la raison, je suis rentré partenaire avec un autre, avec des tambours, c'est parce que je veux que quand on vend, mettons que demain matin, je te vends une ferme à toi, ben je veux que quand toi, tu n'aies pas les problèmes que moi j'ai eus. Moi, je veux que toi, tu achètes ta ferme, tu achètes les tambours de nous, on te bâtit une ferme, puis quand tu payes ces pitons start, ben que tout fonctionne bien, que tu n'aies pas de casse-tête. Oui, tu vas avoir le paiement à faire au bout de la ligne. Puis les seuls casse-têtes que tu vas avoir, ben, c'est de faire certain que tu suis les protocoles qu'on a mis en place et puis de tout vérifier. Fait que c'est le but pourquoi je suis rentré partenaire, parce que oui, j'ai eu ben des casse-têtes. Puis je ne souhaite pas ça à personne. Fait que pour ça, j'ai dit bonne chance tantôt. Parce que c'est quelque chose qui est tout nouveau à travers du monde entier. Puis même les fermes verticales, c'est nouveau. Là. La personne qui se part une ferme d'hydroponie, encore, c'est des casse-têtes. On faut trop travailler avec... tout dépendant où tu construis. Tu commences à travailler avec les inspecteurs de la ville. Tout dépendant comment est-ce que c'est la ville aller. Fait que tu as beaucoup de challenges à passer à travers.
C'est quelle sorte de défi que toi, tu as dû passer à travers?
Les défis, c'était ben, ça commence avec les permis de construction, les ingénieurs, la machinerie que tu achètes, est-ce que c'est la bonne? Tu achètes une machinerie, sais-tu quoi? Non, c'est pas la bonne. Fait que là, tu viens de dépenser 30 000 $ puis c'est pas la bonne machine. Là, tu tournes le bord, puis là, tu vas réétudier encore, tu fais encore, tu ressortes encore sur ces computers, tu fais encore des études. Oh, ben ça, je pense, c'est la bonne. Tu vas aller chercher, est-ce que c'est encore la meilleure? Parce qu'il n'y a pas juste le tambour dans la ferme. Tu as des machines de transplantation, tu as des machines qui remplissent les trays de terreau, tu as les machines à laver, tu as les machines à récolter, tu as des balances du monde qui pèse tout chaque... Mettons que ton tray, il faut qu'il pèse 20 grammes. Tu as des balances, tu as des systèmes de courroies, tu as beaucoup, beaucoup d'affaires à acheter, pas juste une machine, puis demain matin, ça marche, là. Fait que le but de ça, c'est de mettre en place une terre avec le moins de casse-tête possible pour la personne qui veut partir avec ça.
Puis aussi, ça doit être un méchant gros casse-tête, vu que tous ces systèmes-là, il faut qu'ils s'alignent, qu'ils fonctionnent ensemble. Parce que tantôt, tu mentionnais, mais il y avait des parties aussi qui sont automatisées. Il y en a d'autres qui ne le sont pas complètement, mais que les machines sont là pour aider grandement aussi.
Parce qu'on appelle ça une usine. Finalement, nous autres, c'est pas une ferme qu'on a, c'est une usine.
OK.
Parce que dans l'usine, tu plantes, tu fais pousser, tu prends la pousse, tu la transplantes, faut que tu laves ça. Ça prend, c'est une chaîne qui roule, puis la même chaîne, après que c'est parti, à tous les jours, la même chaîne qui roule. Fait que le jour que tu plantes, la même journée, tu récoltes, la même journée, tu emballes, la même journée, tu transplantes. Fait que c'est une roue qui roule. Fait qu'il faut que la chaîne soit faite en bonne uniforme que tu essaies que c'est une roue, comme on dit. Comme quand je dis haut, la roue roule. C'est que tu essaies de mettre ça en place pour que la roue roule. Si tu bâtis ça, que c'est une roue carrée, ben oui, dans les coins, tu as toujours un petit pépin, que ça l'arrive. Mais ça va rouler pareil, mais... Fait que le but de... Puis nous, ben, on est parti avec une bâtisse déjà encore bâtie, qui était l'ancienne Capital Box qu'on appelle dans le temps. Fait que ça nous a rendu d'autres défis, cela, parce que à cause de ça, on n'a pas la place qu'on voudrait avoir. Fait que oui, ça cause des problèmes. Fait que c'est garanti que la phase 4, maintenant que je te parlais tantôt, ben, elle va être dessinée pour que ces petits coins carrés qu'il y a dans ma roue, que ça n'arrive pas, là.
Qu'ils soient arrondis.
C'est ça. Pour que les petits coins qu'ils soient arrondis un peu plus.
Ah, ben c'est vraiment cool. Mais ouais, quand tu y penses, c'est vraiment comme une usine. C'est tout fonctionne à la chaîne, un après l'autre. Fait que ça peut faire des longues journées aussi. Parce que on dit souvent que les fermiers se lèvent à l'aube puis ils retournent chez eux durant la soirée. Ben c'est un peu comme toi aussi, tu fais ça avec la ferme Marcini, même si c'est dans une bâtisse.
Comme c'est là, avec 50 tambours, on est 5 employés. Et puis on travaille de 8 à 4.
Ah, OK.
Mais est-ce qu'on est 250 tambours, on va peut-être, moi, dire 8 employés, mais il va y avoir 2 chiffres. Il va falloir travailler à 2 chiffres, et puis 0 sur 7. Mm-hmm. C'est garanti. Là, on a une petite ferme en début. Ben on vient à bout de la faire rouler avec 5 personnes, puis juste de 8 à 4. Du lundi au vendredi, puis samedi, dimanche... Tout roule seul, on fait juste regarder les caméras, voir comment ça va, puis that's it.
S'il n'y a pas rien qui casse ou rien c'est comme ça. Ah, OK. Puis c'est ce projet-là, cette phase-là, que où est-ce que l'agrandissement, tu penses que ça s'en vient dans le futur rapproché ou un peu plus tard?
Ça s'en vient dans le futur très rapproché. J'ai 8 roues de plus qui vont rentrer, puis ceux qui rentrent, c'est des 8 pieds de diamètre, fait que... Ça représente à peu près 16 roues, 16 tambours qu'on a déjà comme c'est là. Fait que d'ici la fin d'octobre, on va avoir l'équivalent de 60 et à peu près 60. Voyons, le brain ne marche pas, là. 52 plus 16.
C'est 68.
Ouais, c'est ça. J'avais 78 dans la tête. Fait qu'on va avoir 68 tambours d'ici la fin d'octobre. Puis l'idée, c'est dans les projections, c'est d'ici la fin 2025 d'avoir un autre 40 gros tambours. Puis d'ici l'année fin 2026, c'est d'avoir la shop bien pleine de tambours.
OK. Puis après ça, ben vous allez commencer à construire le nouvel édifice, j'imagine.
C'est ça qui est l'idée.
OK. Puis pour ceux qui veulent acheter peut-être ton basilic, puis tes choux, puis tout ça, tu vends ça où?
Comme c'est là, on est, comme je te disais tantôt, d'accord, une expérience un peu. On a beaucoup vendu, on a lâché, puis on a recommencé encore. On s'en va, comme c'est là, on travaille pour rentrer dans les... tu sais, tantôt, je te parlais de machines qu'on achète, puis qu'on n'a pas acheté les bonnes machines, puis là, mm-hmm. Ben là, c'est ça. Je suis dans la voie de changer les machines d'emballage mm-hmm. pour pouvoir... Je paye direct au métro, au Sobeys. C'est là qu'il faut aller.
OK, donc vous autres, vous allez directement dans les gros supermarchés.
C'est ça.
OK. Ah, ben je vous souhaite bonne chance avec ça. Parce que ça peut être difficile. On sait qu'il faut il faut des permis pour tout ça. Puis...
Bon, les permis, ben écoute, on a été les chercher.
Oh, vous les avez déjà, OK.
Ben oui.
Puis ça devrait pas prendre de temps. Il faut juste que votre produit soit accepté par
C'est l'emballage qui est le plus dur. Comme c'est là l'emballage qu'on recherche, qu'on après s'équiper pour, c'est à place, tu sais, tout le monde prend des clamshells aujourd'hui. Puis c'est tout en plastique qu'on appelle. Puis j'essaye de... Comme c'est là, le produit qu'on va avoir d'emballage, ça va être des barquettes de carton. Recyclable avec un top seal qu'on appelle, là, un petit film là, de plastique par-dessus. Fait que c'est la machine d'emballage est après se faire installer comme c'est là. Là, il reste à trouver encore, ben pas trouver, mais à faire venir les traits de carton qu'on parle. Fait que c'est pour ça qu'on est dans un domaine comme c'est là, pas des domaines, mais dans une situation que qu'est-ce qu'on produit comme c'est là? Pour ça, je te disais tantôt, on est encore en domaine d'expérience.
Mm-hmm. Puis ensuite, ben, vous allez être capable d'aller dans ces supermarchés-là par la suite. Quand vous allez tout essayer, ces beaux pépins-là, tous ces beaux défis-là qui s'en viennent. Ah oui, puis aussi, tu avais mentionné que c'était des produits beaucoup plus bio puis plus organiques, mettons, parce que vous utilisez moins d'engrais puis tout ça.
On utilise beaucoup. On pourrait être bio. La seule raison qu'on ne peut pas être bio à date, c'est à cause que dans le domaine de bio, la lumière artificielle compte pas.
Ah, oh, OK.
Fait que, elle compte jusqu'à un certain pourcentage, mais nous, à cause de 100%, on peut pas dire qu'on est bio.
OK, donc c'est ça la grosse différence.
C'est ça.
Eh bien, est-ce que tu as un dernier mot pour les gens qui nous écoutent ou peut-être quelqu'un qui voudrait commencer puis prendre la relève?
Comme je te disais tantôt, c'est quelqu'un qui veut partir là-dedans. Si quelqu'un qui veut partir, ils peuvent m'appeler. Je vais être bien satisfait de lui faire visiter la place puis les aider avec toutes les connaissances que je puisse lui donner.
Eh bien, merci beaucoup, Marc, d'être venu nous parler aujourd'hui.
Bien, merci beaucoup.
Et comme mentionné, c'est Marc Brisson, le propriétaire des fermes Marcini. Bye.
Bye-bye.
Cette émission a été rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire.